Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Alors, je vais tout de suite passer la parole au professeur Herbert Mel, qui va nous parler donc du droit à l'oubli, état des lieux et perspectives.
Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être aujourd'hui en Sorbonne, une Sorbonne qui a 800 ans. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu beaucoup de colloques depuis 800 ans sur les questions que nous abordons, du numérique, et même sur la vie privée, puisque, vous le savez sans doute tous, l'article 9 du Code civil indiquant que chacun a le droit à la protection de sa vie privée date des années 70. Alors c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici, de retrouver de brillants étudiants qui aujourd'hui peuvent intervenir et présenter des communications. Et puis j'aperçois à ma gauche Madame Bensoussan, qui est la fille de son père, lequel père, Alain Bensoussan, est connu de tous, et je lui rends hommage, puisque nous avons travaillé depuis 25 ans sur ces sujets d'informatique et liberté, de protection des données personnelles. Alors je concentrerai mon intervention essentiellement sur les fondamentaux, c'est ce que je connais sans doute le moins mal, en esquissant les évolutions en cours pour lesquelles nous pourrons entendre beaucoup de spécialistes. Alors je voudrais d'abord dire que sur notre sujet, il y a, à mon sens, trois périodes. La première période, c'est les années 78. Un contexte national, une méconnaissance complète de l'informatique et une peur de l'informatique et du fichage. En 78 sort un livre intitulé « La fin de la vie privée ». Déjà. La deuxième période, c'est la micro-informatique des années 80. La banalisation de l'informatique, l'émerveillement devant l'informatique et Internet, et la mise entre parenthèses de tout ce que l'on peut considérer comme des protections nécessaires. Il y a un laisser-aller complet, on ne s'intéresse plus du tout à la protection de la vie privée. Et puis nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle période, celle de l'Internet, celle du numérique, celle des réseaux, celle de l'international, celle de la traçabilité, et nous voyons apparaître l'émergence de nouvelles inquiétudes, même si il faut faire beaucoup de pédagogie pour apprendre aux uns et aux autres les précautions qu'il y a lieu de prendre. Alors, sur cette question du droit à l'oubli qu'on m'a demandé d'évoquer, je présenterai mon intervention en deux points. Un premier point, pour vous rappeler les fondamentaux qui me semblent toujours d'actualité, et un second point pour montrer les évolutions en cours par rapport à ces fondamentaux. Alors, les fondamentaux et leur pertinence, j'en donnerai trois exemples. Le premier exemple, pour vous dire que si on ne parle pas de droit à l'oubli en 1978, c'est un concept droit à l'oubli un peu nouveau, on avait déjà parfaitement conscience du problème. Je relisais il y a quelques jours le fameux rapport Tricot de 1974. Et dans ce rapport Tricot, on peut lire qu'il y a des données à ne pas conserver indéfiniment. Il y a des données qui doivent être effacées après certains délais ou à la suite de certains événements. Les données nominatives ne doivent être conservées qu'aussi longtemps qu'elles sont utiles à l'objet du traitement. Il faut éliminer les données inutiles, les renseignements portant sur certains épisodes de la vie scolaire et universitaire, sur des maladies définitivement guéries, sur des situations périmées, toutes ces données devront être supprimées. Donc on disait déjà cela en 1978, Obama n'a fait que reprendre ultérieurement ce qui déjà était dans les esprits. Donc des précautions déjà au départ tout à fait fondées, d'autant plus qu'à l'époque, dans certains secteurs, les effacements étaient très rares. J'avais fait à l'époque une étude qui a été publiée sur le secret des fichiers, et on voyait bien que dans toutes sortes de secteurs, je pense notamment au secteur bancaire, on fichait des clients indésirables, même s'il y avait amnistie, on n'effaçait rien du tout, au motif que, je me souviens de ce qu'on m'avait dit à l'époque, les mêmes personnes commettent les mêmes fautes au fil des années, et par conséquent, il faut conserver leurs données que l'on détient. Donc déjà une conscience de cette nécessité de l'oubli. Alors, deuxième point, pour souligner ce que vous savez sans doute les uns et les autres, que la CNIL, depuis maintenant une trentaine d'années, essaye de définir précisément les durées de conservation. Alors, qu'en est-il de ces durées de conservation? Est-ce qu'elles doivent être longues, courtes? C'est un débat. C'est un débat qu'essaye de gérer la CNIL avec le secteur privé, avec le secteur public. Avec le secteur privé à travers les déclarations, avec le secteur public quand les administrations veulent créer un traitement par décret et demandent son avis à la Commission informatique et liberté. Alors, sur ce sujet des durées, les approches sont assez différentes. Dans le secteur privé, on insiste beaucoup sur l'aspect contractuel, à savoir que des données sont fournies par un client à une entreprise et que c'est dans le contrat qu'on définira la durée de conservation. Et d'ailleurs, il y a en droit civil ou en droit des affaires des règles sur des durées de conservation qu'il y a lieu de respecter et que la CNIL prend en compte. Alors, pour le secteur public, les choses sont un peu différentes. Le débat est entre l'administration et la CNIL, entre le gouvernement et la CNIL. Alors, en général, les administrations, le gouvernement veulent des durées longues et la CNIL veut des durées courtes. Et l'arbitrage se fait souvent pour le secteur public au Conseil d'État. Lorsque un projet de décret est soumis à l'avis du Conseil d'État, et c'est au Conseil d'État à donner son opinion sur la durée qu'il y a lieu de définir dans tel ou tel cas. Ayant eu l'occasion de rapporter au Conseil d'État des projets de décret, il est arrivé en effet que nous ayons à arbitrer entre une durée de conservation longue dans des affaires de fichiers d'immigration, alors que la CNIL était sur des durées beaucoup plus brèves. Alors, cette loi de 78 a été modifiée en 2004, et l'article 6, cinquièmement de la loi, est extrêmement clair, même s'il n'est pas parfaitement respecté. Je le rappelle, les données sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Donc ceci est très clair, c'est la loi 78 modifiée 2004, c'est la directive de 95, c'est ce qui doit être respecté dans les différents États de l'Union européenne. Alors la CNIL est favorable à des délais courts. La CNIL, depuis le départ, privilégie l'oubli, sauf que la CNIL et beaucoup de CNIL européennes ont dû découvrir qu'il y avait une problématique qui était négligée, celle de la conservation des données pour la mémoire collective. Et ce sujet est apparu dans les années 80, lorsqu'on a découvert que les Allemands avaient constitué dans plusieurs grandes villes de France, des fichiers de juifs. Que fallait-il faire? Détruire ces fichiers, ça avait été envisagé par la CNIL dans un premier temps. Et puis les archivistes sont intervenus pour faire comprendre que c'était la mémoire d'une nation, qu'il ne fallait pas détruire ces données, il fallait simplement les verser aux archives pour qu'elles puissent être accessibles, ces données, après un délai suffisamment long tel que peut le prescrire la législation. Et donc, il faut bien voir que dans ce droit à l'oubli, il y a ces exigences d'un oubli rapide dont on a parlé, dont on reparlera, mais il y a aussi tous les intérêts de la recherche, les intérêts de la recherche qui sont à prendre en compte et qui avaient été négligés dans les années 78 et 80. Donc, pas une trop longue durée de conservation pour le droit à l'oubli et un archivage. Alors, en un troisième temps, Je rappellerai que notre loi 78, modifiée 2004, contient beaucoup de dispositions qui sont parfaitement pertinentes et fondées, mais c'est vrai, et Georges Chatillon l'a indiqué tout à l'heure, les règles de droit, c'est bien, encore faut-il qu'elles soient à la fois appliquées et applicables. Et c'est tout le problème, c'est que nous avons du droit, nous savons générer du droit, mais ce droit demeure souvent peu appliqué et mal applicable. J'en reparlerai dans quelques instants. Alors, rapidement, quelques dispositions à ne pas négliger. L'article 7, un traitement doit avoir reçu le consentement de la personne, sauf quelques dérogations, je n'ai pas développé. L'article 38, le droit d'opposition, pour des motifs légitimes. L'article 32, donnant des droits à toute personne utilisatrice de réseaux de communication électronique, droit d'être informée. Le fameux article 39 sur le droit d'accès, avec pour conséquence l'article 40, qui permet de demander l'effacement, donc l'oubli. Donc il y a un dispositif qui existe, qui pose des règles pertinentes. Le problème, c'est la mise en musique de ces dispositions, c'est leur concrétisation. Évidemment, de surcroît, aujourd'hui, dans un contexte international et dans un contexte technologique en pleine évolution. Alors j'en arrive au second aspect de mon exposé pour insister sur les fondamentaux par rapport aujourd'hui à cette problématique vie privée, données personnelles, Internet. Il y a certainement aujourd'hui une nouvelle dynamique à mettre en place, une nouvelle dynamique qui ne peut pas être seulement juridique, qui ne peut pas être seulement nationale, qui doit être très, très large. Et à ce propos, je ferai trois réflexions. La première, bon, qui est évidente, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, il faut faire évoluer les mentalités. Bon, j'indiquais initialement qu'il y avait eu des évolutions sur les mentalités par rapport à ces sujets. Nous ne sommes plus en 1978. Et donc, il faut aujourd'hui sensibiliser au risque de traçage numérique, au risque, par exemple, notamment de géolocalisation. Et là, ce n'est pas seulement du droit, c'est beaucoup de pédagogie. Faire de la pédagogie, comme l'a fait Obama il y a quelques mois, pour prévenir les jeunes contre les dangers consistant à mettre trop d'informations sur les sites de réseaux sociaux, pour faire attention à ce que prennent en compte les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Il y a donc toute une pédagogie à développer. C'est peut-être difficile, c'est peut-être plus difficile que de rédiger des normes juridiques. Il y a donc toute une pédagogie à développer. À cet égard, le documentaire d'Yves Eudes a été intéressant, Ma vie à poil sur le web. Certains d'entre vous ont peut-être vu ce document. Et c'est bien également de montrer l'attitude de recruteurs sur Internet qui prennent en compte les propos qui ont pu être tenus il y a longtemps par un jeune ou des photos qu'ils ont laissées figurer sur le réseau. Donc nous ne sommes plus en 1978 avec l'affaire Safari, nous ne sommes plus à l'époque de la micro-informatique avec à l'époque cette insouciance que j'indiquais sur la circulation de l'information. C'est une nouvelle période dans laquelle nous entrons, de définition de la vie privée dans un contexte technologique et social complètement nouveau, avec une nouvelle conception de la vie privée. Un de nos grands maîtres du Panthéon à côté, puisque la faculté de droit au départ était au Panthéon, Jean Rivero, c'était de définir la vie privée comme le droit d'être laissé tranquille. Or, c'est bien la question, c'est bien le débat, comment rester tranquille sur le réseau aujourd'hui. À une époque, les entreprises de vente par correspondance avait, à la demande de la CNIL, créé un fichier qui était le fichier Robinson, c'est-à-dire le fichier de tous les gens qui ne voulaient pas être démarchés. Mais donc il fallait créer un fichier pour ne pas être gêné, être embêté par toutes sortes d'entreprises. Donc il y a aujourd'hui des mentalités à faire évoluer et qui ne passent pas seulement par la voie juridique, même si aujourd'hui nous sommes réunis entre juristes. Il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de pédagogie à faire. Alors, le second point que je voulais évoquer ici, c'est l'importance d'une réflexion internationale. Alors c'est vrai que le droit français, pour des générations précédentes aux vôtres, a pendant longtemps été un droit national. On considérait que le droit français était le meilleur du monde et qu'il n'y avait pas à s'occuper des droits des autres pays. Aujourd'hui, nous sommes obligés de réfléchir au niveau international, entre juristes, mais également avec les politiques, et également, bien sûr, avec le secteur privé, avec des interlocuteurs comme Microsoft, comme Google, et comme toutes ces entreprises, tout le réseau. Et donc, moi, j'attache une grande importance à cette réflexion internationale, par exemple, qui se fait au niveau de l'Union européenne dans le groupe de l'article 29, et puis à toutes ces conférences internationales, ces conférences de CNIL européenne et mondiale, et notamment à la conférence de Madrid qui a eu lieu il y a quelque temps déjà, et qu'avait bien exposé le président turc qui en était l'une des chevilles ouvrières. Pas négligeable de réunir une cinquantaine d'États, pas négligeable de réunir une cinquantaine d'agences, des entreprises, pour réfléchir sur le sujet, et pas seulement pour faire du droit. Petite expérience que j'ai me montre qu'en fait, avant d'en arriver à des solutions proprement juridiques, il faut d'abord dégager ce que j'appellerais de l'infradroit. Il y a d'abord à réfléchir les uns et les autres sur de l'infradroit, sur des règles de conduite, et de les faire accepter par les uns et par les autres, par différents pays. Et on sait que les États-Unis n'ont pas la même problématique que l'Europe. Faire accepter par différents pays, faire accepter par des grandes entreprises multinationales. Et donc cela se génère dans des colloques, dans des réunions qui définissent des règles de conduite, qui définissent un infradroit, qui à un moment donné pourra devenir du véritable droit, du droit accepté par un certain nombre d'États, un certain nombre de nations, et puis qui pourra ensuite donner lieu à des conventions internationales. Donc tout ça ne peut pas se régler d'un claquement de doigts. Il y a toute une évolution à venir pour essayer de définir la pédagogie, les comportements, les règles de conduite, avant que les États élaborent leurs propres dispositifs juridiques, essayer de les coordonner, définir ceci dans des conventions internationales, et mettre en place un droit international privé solide. Parce qu'on a beaucoup réfléchi avec Informatique et Liberté sur notre droit national français merveilleux, mais aujourd'hui, il faut être conscient de ce réseau international. Tout se fera progressivement et tout se fera. Alors je terminerai sur la France. Toutes ces réflexions sont bien sûr très positives. Cette charte qu'a conduite notre secrétaire d'État au numérique est tout à fait intéressante également. Tout ceci est très bien, bien d'élaborer une charte, bien d'avoir une proposition de loi de deux sénateurs. La proposition de loi peut avoir son intérêt de manière ponctuelle d'ajouter, de modifier quelques dispositions, notamment sur le statut de l'adresse IP, sur la traçabilité des informations personnelles. Mais personnellement, je ne crois plus aux grandes cathédrales juridiques, qu'on va élaborer un grand droit de l'Internet et des réseaux avec des grandes dispositions juridiques. Je crois plus aux dispositions ponctuelles, à la fois pédagogiques, également juridiques. Et je dirais que je suis assez réservé sur ce qui a été proposé de modifier la Constitution pour y inscrire le numérique. Est-ce qu'il fallait faire... Est-ce qu'il fallait mettre le droit d'environnement dans une charte au niveau de la Constitution? C'était assez discutable. Est-ce qu'il faudrait faire monter le numérique dans la Constitution? Je crois que c'est également discutable. Ça devient un peu aujourd'hui la tarte à la crème de modifier constamment la Constitution. En fait, nous avons une vie privée qui a déjà une valeur constitutionnelle. Reste ensuite cette vie privée qui a une valeur constitutionnelle à lui donner un contenu et à en fixer des bornes. Le droit à l'oubli que l'on veut traiter aujourd'hui n'est finalement qu'un des éléments du droit à la vie privée, d'un droit à la vie privée sans doute à enrichir et à construire de manière plus originale par des prises de conscience, par des règles de conduite à promouvoir et par des normes sur lesquelles s'entendre à moyen, voire à long terme. Voilà ce que je pouvais dire très modestement ce matin.